Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du Pédalo. Au programme ce soir, une interview avec Yacine Lagrour, membre de l'association Alkamanjati qui organise le Festival des Orientales. Et ce soir, on chamboule un peu notre programme puisqu'en première partie d'émission, on accueillera notre team de chroniqueurs et chroniqueuses, majoritairement des femmes ce soir. Loan nous parlera de gastronomie et de diplomatie. Sophie nous expliquera ce qu'est la nostalgie par le prisme de la musique. Ajustez votre gilet de sauvetage, le Pédalo, c'est parti.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Mais on commence tout de suite par un papier de Maxence. Salut Maxence.
Bonjour Hugo.
Des incendies qui se déclarent de plus en plus fréquemment dans le département suite aux canicules et au réchauffement climatique. Une arrivée vraiment précoce au vu de la saison. Maxence, donc tu t'es vraiment intéressé au sujet, qui est un sujet vraiment qui pose problème, hein, évidemment.
Oui, tout à fait Hugo, avec les températures records qui sont allées jusqu'à 40 degrés sur le département le week-end dernier, nul doute que le réchauffement climatique est passé par là. En effet, ce réchauffement est un problème pour la terre entière et les feux de forêt et de champs, eux, sont de plus en plus nombreux dans le Maine-et-Loire. C'est ce que nous affirme Steven Séjourné, jeune sapeur-pompier au centre de secours de Châteauneuf-sur-Sarthe. Des fortes chaleurs qui n'y sont donc pas pour rien dans l'histoire, car elles provoquent l'assèchement des forêts et des champs. Il suffit juste d'un éclair ou d'une petite étincelle sur les petites et hautes herbes pour que le feu prenne des proportions énormes. Le facteur humain est aussi de la partie, car il suffit juste d'un mégot jeté ou d'un barbecue qui dérape pour que le feu envahisse une forêt entière. C'est pourquoi des préventions ont été faites tout le week-end dernier pour éviter ces incendies. Le directeur de l'Office national des forêts, Nicolas Janot, a même mis en place un arrêté afin d'interdire les accès aux véhicules moteurs dans les forêts. Les pompiers sont donc dans les starting blocks afin d'arriver le plus vite possible sur les lieux. En début de semaine encore, un feu de forêt a été déclaré à Gennevilliers-de-Loire. 12 véhicules et 60 pompiers sont intervenus.
Merci beaucoup Maxence pour cette chronique et le pédalo continue tout de suite avec de la musique. Pour son dernier jour de stage avec nous, Elisa est allée faire la fête. Et vous l'avez peut-être croisée dans Angers. Elle était joyeuse et guillerette, son micro à la main. Et oui, on parle évidemment de la fête de la musique. Évidemment, elle a tout enregistré.
J'enlève la bonnette, je remets la bonnette. 1, 2, 3, freestyle.
Nos potes se barrent à l'autre bout de la ville, on vient de tout remonter, on doit tout redescendre. C'est bon pour toi?
Super, bonne soirée. On n'arrive pas à les avoir au téléphone et tout, c'est trop galère.
Notre bière, elle est dégueulasse.
On veut du métal!
Ça se voit que ça va être chouette.
Ça donne envie de danser, on va bien s'éclater. Hein.
J'ai envie de faire du vélo.
Moi je voulais aller me coucher, mais elle veut pas. On est obligé de rester. C'est dingue.
Il y a 3 ans, avant le Covid, il y avait des putains de groupes dans toutes les rues. Et maintenant, c'est des DJ, quoi.
Et c'est vaguement le monde de la teuf. Mais ce soir, on a confirmé notre sentiment. C'est vraiment un super truc. C'est physique. C'est pas juste aimer la symphonie de la musique, c'est physique. C'est les ondes qui te traversent. Quand le son est à fond, c'est trop bien. Faut considérer ça comme une vraie culture.
Et en bas, c'est de la merde.
Toi, tu casses tout.
Toi, tu passes une bonne soirée?
Non, j'avais pas de monnaie pour le kebab.
Et certains DJ sont moins bons que d'autres.
Il a raison.
Franchement, les DJ du centre sont bons, mais ils ont loupé pas mal de trucs et je préférais certains DJ que d'autres. Un peu déçu, mais en même temps content.
Il a raison.
Il l'a dit, voilà, il est grillé.
Merci Jacques Lang. En vrai, Jacques Lang, merci Jacques Lang.
Monsieur Lang.
Un micro-trottoir d'Elisa qui s'est baladée avec son micro donc à la fête de la musique. Vous étiez à la fête de la musique ?
Oui.
Alors ? Est-ce qu'on s'y retrouve ?
Moi je trouve, comme je suis un peu d'accord, il n'y a que des DJ, c'était pas très diversifié comme musique.
Il y avait une fanfare aussi, ça c'était cool.
On continue dans la musique. Juste après ça, d'abord, c'est la chronique de Loan. Loan, tu étais à la fête de la musique alors que j'imaginais que tu allais travailler d'arrache-pied sur ta chronique.
Je l'avais déjà fini.
Ah bravo. Une chronique que tu as écrite sur la gastrodiplomatie.
Oui. On a tous déjà reçu un bonbon lorsqu'on a accompli une bonne action en étant petit. Ou alors, on a tous déjà rendu service dans le but d'en obtenir un. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas qu'à son petit frère qu'on peut donner des bonbons pour avoir ce qu'on veut. Et oui, si on voit les choses en plus grand, avec un vrai repas, on pourrait soudoyer le président des États-Unis.
Soudoyer le président des États-Unis, j'ai loupé ma relance, et donc ça, c'est ça la diplomatie culinaire.
Oui, tout à fait, c'est l'utilisation des repas, de la gastronomie d'un pays pour transmettre un message non-verbal. C'est une stratégie politique qui peut être utilisée dans le contexte des relations entre États.
Et en fait, c'est ce qui s'est passé en 61, quand De Gaulle a reçu le couple Kennedy pour un repas à l'Élysée.
En fait, tout a été mis en œuvre pour les séduire. À l'origine, De Gaulle et Kennedy n'étaient pas faits pour s'entendre sur le plan diplomatique. En effet, on a un De Gaulle qui applique une politique plutôt conservatrice d'un côté et un Kennedy plutôt progressiste de l'autre. Cependant, à l'arrivée en France du nouveau président des États-Unis et de la Première Dame, on a mis les petits plats dans les grands. On les a reçus à Versailles, visite aux petits oignons et mise en avant de la grande gastronomie française.
Et c'est à ce moment-là que je me dis que j'aurais peut-être dû être président des États-Unis plutôt que journaliste à Radio Campus, puisque j'aurais bien aimé, moi aussi, manger à Versailles. En tout cas, le but ici, c'était de faire rayonner le soft power, la puissance culturelle française.
Oui, c'est-à-dire le pouvoir culturel de la France, le pouvoir d'influencer ou orienter les relations internationales sans utiliser la force. On met en avant notre patrimoine. Et le patrimoine, c'est pas que des monuments. C'est aussi le repas gastronomique français, donc l'apéro,
oui,
l'entrée,
oui,
le poisson,
oui,
la viande,
miam,
l'entremets et le dessert et le Dijon.
Le plus oublier. Important.
On risque pas de rester sur notre faim. D'ailleurs, le plan séduction a fonctionné. On avait de gros soucis financiers à cette époque en France pour conserver notre patrimoine, et notamment le château de Versailles. Il tombait en ruine.
Et grâce... là, Stéphane Bern.
Oui.
Non, pas Stéphane Bern.
Pas Stéphane Bern.
Non, justement, c'est grâce au repas servi lors de la visite des Kennedy à Versailles qu'il s'est passé un truc.
Oui, le chef cuistot a fait frétiller les papilles de la première dame des États-Unis et elle a tellement adoré qu'elle s'est dit qu'elle allait devenir mécène au château de Versailles. Donc grâce à elle, on a pu rénover l'aile gauche du Grand Trianon. Il y a un proverbe qui dit que le moyen le plus simple de gagner les cœurs est de passer par l'estomac. Bah franchement, là c'est vérifié. On est tout de suite plus disposé à coopérer lorsqu'on a bien mangé.
C'est vrai.
D'ailleurs, la gastrodiplomatie a été utilisée bien avant De Gaulle pour des enjeux bien plus importants. Mais ça, ce sera pour une prochaine chronique culinaire.
Merci Loan. Et en tout cas, ça donne envie d'avoir une crise diplomatique chez soi pour que ses colocs ou ses parents ou n'importe qui nous prépare un bon petit plat pour qu'on se console tous autour.
Petit tips.
Un petit tips, voilà, à tous les colocataires. Je pensais qu'il y avait une virgule, mais il n'y avait pas de virgule. Salut Sophie.
Salut Hugo.
Toi aussi, tu étais à la fête de la musique par contre.
Oui.
Voilà. Et tu vas nous parler de musique.
Oui, mais ça va être un peu moins festif que, que la fête de la musique, mais c'est cool aussi.
C'est très vaste, la musique. C'est ta passion par ailleurs. Tu as choisi de resserrer cette chronique autour d'un sujet d'anglais, hein, finalement, comme on dit. Et tu parles de la nostalgie.
Should Have Known Better de Sophie Ann Stevens est une chanson douce et au-delà des mots, sa sonorité m'évoque une heureuse nostalgie. La nostalgie, elle faisait pas partie de ma vie, mais un jour, j'ai rencontré une amie qui avait très vite ce recul sur le présent et qui en faisait vite un souvenir à évoquer, un sourire attendri aux lèvres. Sans y penser, ça me faisait un peu bizarre. Ça fait peur de voir sa vie dans le passé. Quand t'es petit, le présent c'est ton seul temps, parce que le futur, c'est pas toi qui gères, et le passé, t'y penses pas trop. Alors tu suis le chemin et tu vis le moment. Puis tu grandis, et c'est à ton tour de te débrouiller et de tracer ta propre route si tu veux t'y retrouver. Alors tu te projettes. Le truc, c'est que si tu te paumes dans le futur à trop te projeter, t'es plus grand-chose dans le présent. Et ça, ça fait mal. C'est là que ton passé intervient, et la nostalgie qui va avec. Celle que tu ressens quand tu regardes tes souvenirs, que tu te rappelles.
Mais en fait, c'est ça ta solution quand tu t'es perdu. C'est la nostalgie, parce qu'en vrai, le regret du temps passé, la mélancolie...
C'est vrai que la mélancolie n'a pas trop bonne réputation. Hein. On parle d'état de tristesse vague accompagné de rêverie. Bref, c'est pas trop en phase avec notre société de l'efficacité. Faut avancer, toujours. Vous connaissez la phrase « La vie, c'est comme un vélo. Si on arrête de pédaler, tout s'arrête et on tombe. Ben, » en plus brutal, ça donne marche ou crève. Bon, on n'a pas trop la place pour la nostalgie dans tout ça. Mais en fait, prendre le temps de regarder ce qui a déjà existé, ça peut aussi nous aider à avancer. C'est peut-être là que se trouve la force de la nostalgie. Je vous invite à écouter la chronique de Christophe André sur le sujet, sur France Inter. En voici un extrait.
Pendant longtemps, on a considéré que la nostalgie posait des problèmes, qu'elle était une forme de tristesse et de mélancolie pouvant s'avérer figeante pour notre esprit. Mais les travaux récents en psychologie des émotions tendent à la réhabiliter. Chez la plupart des personnes, elle entraîne des ressentis plutôt agréables, elle aide à se sentir moins seule, elle joue un rôle important dans le sentiment d'identité personnelle, en établissant une continuité entre passé et présent. Tout est important, présent, passé et futur. Mais ce qui est précieux, c'est la liberté de mouvement, c'est de pouvoir naviguer librement dans ces trois temps psychologiques et de ne rester durablement prisonnier d'aucun.
Donc en fait, pour Christophe André, la nostalgie nous donne un message, ce qui compte dans ta vie, c'est le bonheur.
Oui, on peut puiser dans les bons moments passés le courage d'avancer pour se créer de nouveaux souvenirs, aujourd'hui, maintenant. Parfois j'oublie que les choses ont déjà été belles et les angoisses du présent et du futur prennent toute la place. C'est dans un de ces moments que j'ai découvert la chanson de Ben Mazuet, « Quand je vois cette image ». Cet artiste a à la fois une rage de vivre et de la mélancolie heureuse, comme il pourrait l'appeler. Il m'apaise. Je vous propose d'écouter tout de suite « Quand je vois cette image », une tendre invitation à puiser le bonheur en attente dans nos souvenirs, qu'on n'a peut-être pas assez pris le temps de ressentir au fond de son cœur, sur le moment.
Quand je vois cette image, je ressens des choses immenses. J'entends, je sens, je vois les années qui dansent. Quand je vois cette image, fin 80 dans une fête de légende, et moi tout petit qui cours entre de longues jambes. Quand je vois cette image, quand je vois cette image, j'ai encore des frissons, des instants de coton, déambuler dans la masse, en se faufilant dans la liesse, de courir enfant parmi les gens qui dansent. C'était ma première ivresse. Je vois cette image, je ressens un blues dément, incapable de m'en demander faire vraiment, c'est lourd. Mais c'est mon carburant, l'amour, les erreurs et les hommages vibrants. Quand je vois cette image, quand je vois cette image, faut pas les regarder trop, elles respirent ces photos. La nostalgie, c'est le risque des souvenirs qui reviennent. La nostalgie, c'est une liqueur triste. Mais ça vaut parfois la peine. Quand je vois cette image de ce petit week-end, de ce genre qu'on a dit qu'on en ferait des centaines, et pourtant, des aussi beaux, il n'y en a pas eu tant que ça. Partir sur un coup de tête, et voilà. Quand je vois cette image, quand je vois cette image, ça ravive mon esprit, engourdi par les bruits de la vie. Parce qu'on sait tous que c'est ça qu'on retiendra tout au bout. Certainement pas le stress là qui tous les jours nous pousse à bout. Parce qu'on sait tous que c'est ça qu'on retiendra tout au bout. D'avoir osé plonger alors qu'on était vraiment pas sûr du tout.
Thank you.
C'était « Quand je vois cette image de Ben Mazoué sur Radio Campus Angers ». Il est exactement 18h16 et on accueille Yacine Lagrour dans les studios. Bonsoir.
Bonsoir à toi.
Vous êtes membre de l'association... On va se tutoyer.
Oui, bien sûr.
Tu es membre de l'association Al-Kamandjadi qui organise le festival Les Orientales. Deux week-ends en juillet, celui du 2-3 juillet donc, et ensuite du 7 au 10 juillet. Donc ça commence le jeudi et ça se termine le dimanche, la semaine d'après, donc du 7 au 10. Et tout ça en itinérance dans l'Anjou. Donc on passe Douai en Anjou, Angers, Saint-Florent-le-Vieil et Béhuard.
Je me trompe. Exactement.
Pas. Ok. On va voyager dans l'Anjou, mais pas que, puisque ce festival nous emmène dans le Maghreb méditerranéen, l'Asie lointaine, les hauts plateaux de l'Himalaya, de l'Érythrée, les steppes d'Asie, etc. etc. Bref, le Grand Asie. Toutes ces cultures ont trouvé refuge en Anjou à l'occasion de ces deux week-ends pleins de fêtes, de danse et de chants.
Exactement.
Vous êtes heureux ?
Oui, heureux, mais chargé en termes de travail, parce que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie, en fait, voilà, à organiser, à recréer ce festival.
Alors justement, vous dites recréer, je crois que donc, ce festival était au lieu unique entre 2017 et 2019 à Nantes, si je me souviens bien.
Oui, c'était une soirée, en fait, qui avait été remise au goût du jour... Mais à la base, c'est le festival Les Orientales qui avait lieu à Saint-Florent-le-Vieil, en fait, qui s'est arrêté en 2013. La dernière édition était en 2013, qui a duré pendant une quinzaine d'années. C'était vraiment un événement assez connu dans la région. Et en plus, il rayonnait jusqu'à Nantes, parce que Saint-Florent, bah, c'est juste entre Angers et Nantes, en bord de Loire. Et du coup, ce festival bah, s'est arrêté malheureusement en 2013. Et puis nous, on a décidé avec notre association Al-Kamandjadi de remettre, enfin ça fait 2 ans qu'on en parle, et de faire revivre ce festival pour cette année, mais cette fois-ci dans plusieurs lieux. Donc en fait, il y a bien 2 grands week-ends, mais il y a plusieurs espaces.
Oui. Alors le directeur artistique, c'est Alain Weber. Donc c'était pas lui le directeur artistique quand le festival s'est arrêté en 2013.
Si, ça a été, il a été le directeur artistique depuis le début, je pense, du festival.
Ouais, et alors, qu'est-ce qui a fait renaître ce festival de ses cendres ?
Eh bien, il se trouve que le président de notre association Al-Kamandjadi, qui s'appelle Ramzi Abouredouane, qui était un altiste, violoniste au conservatoire d'Angers.
Qui a donné un concert sur Angers, d'ailleurs,
il n'y a pas très longtemps. C'était le 5 mai au Grand Théâtre d'Angers. Donc, il joue du bouzouk en musique orientale et il joue aussi donc de la violon alto en musique classique. Et Ramzi, en fait, de par son parcours musical, a participé à plusieurs événements dans lesquels Alain Weber était directeur artistique, dont notamment le festival de Fès, de musique sacrée de Fès au Maroc, qui est un grand festival en fait international de musique spirituelle. Alain Weber en est le directeur artistique pour la soirée d'ouverture. Et c'est Ramzi qui a fait la direction musicale en tant que chef d'orchestre. Et du coup, petit à petit, après leur rencontre et une collaboration pendant 5 éditions, je crois, à Fès, c'est né l'idée de pourquoi pas travailler ensemble en fait, sur l'Anjou, puisque Ramzi est revenu il y a 2 ans à habiter à Angers. Et on s'est dit, ça serait bien, ça manque en fait, ce type de musique en tout cas, manque dans la région et même dans tout l'Ouest en fait, de musique traditionnelle et musique du monde et musique sacrée, il n'y en a pas même dans l'Ouest en fait.
Et comment est-ce qu'on fait justement le lien entre cette culture orientale de manière générale, hein, donc maghrébine, bengalaise, indonésienne, et cette culture de l'Anjou avec quand même un patrimoine et une histoire très catholique? Comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux? Parce que c'est une vraie rencontre des cultures qui s'opèrent.
Tu l'as dit, c'est que tous les patrimoines en fait sont religieux et sacrés. En fait, donc on est là dans des lieux aussi sacrés, même si là, par exemple à Angers, le 7 et 8 juillet, ça va avoir lieu au Jardin des Beaux-Arts, mais il y a le cloître Toussaint, à côté il y a l'église qui est transformée en musée, mais à l'origine ce sont des lieux
sacrés.
Donc il est là le lien en fait, c'est souvent les gens aussi, les musiques sont inspirées des fleuves, des rivières, de l'eau, de la mer.
D'où le lien avec la Loire.
D'où le lien avec la Loire aussi. Donc en Anjou, là, on est quand même pas loin de la Loire. Et puis les lieux qu'on va mettre en valeur, ouais. En fait, il y a l'église de plein air de Béhuard, par exemple, où nous aurons l'église, les Mesmours, l'église orthodoxe érythréenne. C'est une communauté qui prie en musique. et bah, ils seront dans l'église de plein air, accueillis par le diocèse, la maison diocésaine de Béhuard.
Il va y avoir plein de concerts. Alors, j'ai pas le compte en tout combien il y en aura, mais vraiment, il y en a beaucoup.
J'ai arrêté de compter, moi.
Voilà, c'est ça. Vraiment, quand on a le programme tous les deux, bon, il y a 9 pages de programme. Vraiment, c'est énorme. Comment est-ce qu'on fait le lien entre toutes ces cultures orientales? Je reprends un maghrébine, bangladaise, indonésienne, quand on sait toutes les nuances, toutes les variations, toutes les différentes sonorités qui peuvent y avoir entre ces différents styles musicaux et même arts de vivre.
Alors là, ils vont pas forcément jouer ensemble, donc ils vont
évidemment
jouer aussi
mais
séparément,
c'est quand même une rencontre.
Ils peuvent aussi se rencontrer sur la même scène. Après, ça, c'est un travail musical, de tonalité, etc. À
non, mais
travailler.
Je pense et à la ça, construction
y a plein
du festival.
Il y a plein de rencontres. Après, nous, on est sur aussi des considérations, pas seulement artistiques, qui sont aussi géographiques et liées à la thématique aussi du patrimoine, etc. Et ça, c'est Alain Weber, justement, le directeur artistique, qui fait ses choix en fonction de ces thématiques. On est un des plus grands groupes qui va venir, c'est les Gamelan, par exemple. C'est un groupe d'Indonésie, c'est des instruments.
Alors, racontez ce que c'est un gamelan.
C'est un instrument, faut venir voir en fait, parce que c'est assez impressionnant.
C'est impressionnant un gamelan.
Ils vont être 25 personnes sur scène avec de la danse aussi, des chants, et c'est quelque chose. Donc ça sera plutôt à Angers le vendredi soir, 8 juillet. À 21h, donc au Jardin des Beaux-Arts. Après, dans la programmation, il y a plein de choses.
Il y a même de la musique grecque.
Et il y a même de la musique grecque, parce que la grecque, l'Orient en général, en fait, est aussi... Donc le festival, c'est les orientales, et l'Orient, c'est toujours relatif, en fait. Hein, c'est comme...
oui,
c'est relatif
l'Orient
à
par rapport à qui.
Par rapport à qui. Donc là,
À Brest, tout est oriental.
On est, quand on est à l'ouest, comme nous, là, tout est oriental, en fait. Donc, quelque part, même de la musique de Strasbourg, on pourrait dire que c'est de la musique orientale.
Il y a de la musique strasbourgeoise?
Non, pas encore. Non, on n'a pas pensé à ça. On n'est pas allé. On reste à l'Extrême-Orient. Donc, en fait, par rapport à Angers, la musique grecque est aussi de la musique.
Extrême-Orient, mais aussi d'Orient. Moyen-Orient, puisqu'il y a des chants algériens, notamment.
Maghrébin
de manière générale.
Alors que le Maghreb, c'est l'inverse, c'est l'Occident de l'Orient. Parce que le mot même Maghreb, en fait, signifie coucher du soleil, donc l'Occident du monde oriental.
Il y aura également la projection d'un documentaire, Himalaya, l'enfance d'un chef. Donc c'est un documentaire, un film tibétain. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, j'ai pas encore vu le film parce que c'est
ça sera la
plusieurs.
Surprise pour tout le monde.
Moi, je fais la coordination du festival, et c'est vrai que c'est un choix du programmateur, en fait, Alain Weber, qui a suivi. En fait, je sais que c'est un film qui a duré sur plusieurs années, sur une bonne vingtaine d'années, sur 25 ans, et qui a suivi l'enfance d'un chef moine tibétain.
Il y aura également, alors je continue à tourner ces nombreuses pages du programme, Atri Nassouf, qui fait du blues et du rock touareg. Je vous propose d'en écouter un petit morceau.
Avec plaisir.
Thank you.
Donc c'est Atri Nassouf qu'on vient d'entendre. Donc ça c'est du rock touareg, hein, du blues touareg, c'est absolument magnifique.
C'est dans la lignée un peu de ce qu'on a connu les grands groupes comme Tina Riwen en fait. Oui. Voilà, ça c'est les touareg de l'Afrique du Nord et du Sahara en fait, qui n'ont pas vraiment de frontières. Lui, il se trouve qu'il est du Niger, mais il a vécu aussi en Libye, en Algérie, et voilà, c'est un peu le côté. Et puis c'est de la musique aussi berbère. Ça sera à Douai-la-Fontaine, aux arènes de Douai-la-Fontaine, donc le samedi 2 juillet. Voilà, et on aura en première partie la musique indienne moderne. Donc là, c'était un peu la soirée moins traditionnel, en fait c'est inspiré des musiques traditionnelles, mais ça reste dans les musiques actuelles. Et donc Atri Nassouf, c'est quand même, même si c'est une musique et des chansons, des chants traditionnels touareg, ça reste avec des instruments quand même actuels, guitare électrique, etc., un rock, blues du désert. Et puis la première partie, c'est Parvin et Ilyas Khan, qui sont d'origine indienne, franco-indien, et qui mélangent les voix, les instruments traditionnels, tabla, beatbox et instruments, des choses, enfin voilà, des choses aussi, des instruments de musique actuelle aussi.
Oui, c'est ça, ils adaptent à la fois des instruments traditionnels que sont les tablas, voilà, avec le beatbox. Ils viennent d'où tous vos musiciens ? Est-ce qu'ils arrivent directement d'Inde, du Rajasthan, du Bangladesh, d'Algérie ? Ou est-ce que c'est des... ils sont finalement en France et c'est là qu'ils exercent ?
La plupart sont soit de passage en Europe, soit en France, ou en Europe en général, en fait. Ça dépend des... Il y a plusieurs groupes qui viennent d'un peu partout. Ils ne viennent pas des pays d'origine, parce qu'on est... c'est vrai qu'on est sur une première édition. On part avec des petits moyens. On a voulu quand même offrir un maximum de concerts et d'événements au public en Anjou, et ben, on ne pouvait pas se permettre pour cette première édition d'avoir des gens qui viennent directement d'Inde ou d'Indonésie ou d'Afrique, etc. Et, mais en même temps, c'est aussi une reprise après voilà, 2 ans difficiles pour la culture. C'était aussi une façon de faire participer les gens qui n'ont pas eu forcément beaucoup de concerts pendant ces 2 ans, qui sont quand même établis en Europe ou en France, voilà, certains en Hollande ou en Allemagne, ou si le groupe grec vient de Grèce, mais ça reste l'Europe. Et puis les autres sont tous quasiment établis ou de passage en France. Souvent c'est aussi... Ils sont entre les deux, quoi. C'est des gens qui vivent aussi entre 6 mois voilà, en Inde et 6 mois en France, parce qu'ils ont toujours des attaches là-bas, artistiques, etc., pour ceux qui pratiquent la musique ou la danse, quoi.
Il y a de la musique, de la danse, mais il y a aussi des conteurs. Donc il y a Sarah Elouni qui viendra, mais il y a aussi Halima Hamdan, je
sais pas. Exactement. Si je prononce, ouais, tu prononces bien, bravo.
Oui, merci. c'est important aussi de raconter des histoires. Parce que la musique raconte énormément de choses, mais les contes, ça amène dans un imaginaire, on cultive l'imaginaire avec ces histoires-là.
Bah, c'est exactement ça, en fait, pendant ces soirées-là. En fait, les contes permettront d'introduire aussi des soirées sur ces thèmes, en fait, de l'Orient. Donc tous les contes liés à l'imaginaire collectif orientaux mettent déjà le public dans une ambiance. Donc ce serait des petites premières parties plus intimistes, en fait, où le public suivra sur des petites jauges avant de pouvoir goûter un gros concert. Donc c'est vraiment une mise en bouche. Il y a des voilà, il y a des événements littéraires, il y a des films, il y a des concerts. L'idée, c'est toujours de mélanger tous ces arts.
Le temps nous est compté, une réponse rapide, un concert, celui que toi tu vas aller voir, que tu ne louperas sous aucun prétexte.
Celui que je louperais, bah en fait c'est très différent, on ne peut pas faire une réponse rapide là-dessus, je ne sais pas du tout.
Celui que tu attends avec le plus d'impatience.
Celui que j'attends, j'aimerais bien voir, ouais, les Gamelan.
Les Gamelan, c'est impressionnant. On vous invite, chers auditeurs et auditrices, à aller voir les Gamelan, c'est énorme.
Vendredi 8 juillet, ouais. Donc à Angers, au Jardin des Beaux-Arts à 21h. Et oui, ça, je pense que c'est assez impressionnant. J'ai jamais vu vraiment en live. Le reste, j'ai vu un petit peu des choses, mais c'est peut-être la chose pour laquelle j'ai le plus de curiosité.
Allez voir sur internet, hein, chers auditeurs et auditrices, puisque nous sommes bien incapables d'expliquer ce que c'est, à part que c'est un grand ensemble indonésien. Il reste des billets, il reste des places.
Oui, ben après c'est des billetteries différentes. À Angers, c'est gratuit en fait. Ça va.
Il faut quand même s'inscrire.
Faut s'inscrire et ça va initier en fait aussi toute la saison estivale en fait de Tempo Rive qui aura lieu sur les mêmes lieux. Voilà, on a une billetterie. Faut voir sur festival-lesorientales.fr et puis après on se laisse guider par la programmation, la billetterie, un aperçu sur les artistes, etc.
Le festival Les Orientales, c'est deux week-ends en juillet, celui du 2-3 et ensuite du 7-10, la semaine juste qui suit, en itinérance autour de la Loire, en plein cœur de l'Anjou, à Douai-en-Anjou, Angers, Béhuard et Saint-Florent-le-Vieil. Merci beaucoup Yacine Lagros d'avoir répondu à nos questions sur le Centre AFR.
Ben, merci pour l'invitation.
C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes trépidants du Pédalo. D'ici là, très bon week-end à tous et à toutes. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Retrouvez en podcast sur le www.radiocampusangers.com.